Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
On retrouve Bruno Dussaussois et son invité Emmanuel Leroy-Ladurie de l'Académie des sciences morales et politiques dans une série de 6 émissions consacrées à l'histoire du climat.
Pour clore notre série sur l'histoire du climat, nous allons parler de l'avenir de cette discipline dont mon invité, Emmanuel Leroy-Ladurie, a été le pionnier en France. Dès les années 1950, c'est-à-dire dès les débuts de votre carrière de chercheur, vous vous êtes lancé dans l'aventure de l'histoire du climat, une aventure qui vous a mené loin puisque vous travaillez encore sur le sujet aujourd'hui, à 80 ans passés. Or, à l'époque, l'histoire du climat était mal considérée par la plupart des historiens de métier, vos collègues et néanmoins amis. Vous rappelez dans votre livre « 33 questions sur l'histoire du climat », une série d'entretiens avec Anouchka Vazak, que c'est en 1955 que vous avez commencé vos recherches et vous ne prêtiez pas attention à l'époque à ceux de vos collègues qui disaient de l'histoire du climat qu'elle était une fausse science.
Il y a des historiens du climat, il y en a en Suisse, c'est toute l'école de Pfister. Ça déteint sur l'Allemagne, et à ne pas confondre avec les gens qui font du mondialisme, très justement, comme Phil Jones ou Michael Mann dans le monde anglo-saxon, mais ça, c'est plus vaste. Alors, il y a donc Pfister en Suisse, Lutherbacher, etc., Camufot et Bonardi en Italie, en Espagne aussi, et puis alors un grand type, surtout, qui fait l'histoire du climat néerlandais, mais en néerlandais. Alors j'ai un élève qui apprend le néerlandais à cause de ça, c'est Buissemont, etc.
Mais en France, donc?
Alors en France, il y a les scientifiques, c'est tout à fait au premier plan. Vous avez Édouard Barre à Aix-en-Provence, vous avez après tout Météo France, avec Moisselin, Rousseau, etc. à Toulouse. Vous avez le groupe de Gif-sur-Yvette avec Valérie Daud, qui est la grande prêtresse, si je peux dire, des vendanges.
À Gif-sur-Yvette, c'est le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement.
Pascal You, etc.
Ce sont davantage des scientifiques.
Ah, ce ne sont pas du tout davantage, ce sont essentiellement des scientifiques. Mais il y a Emmanuel Garnier, qui est un véritable historien, et qui du reste a à la fois une carrière brillante du point de vue de l'Institut d'Histoire, et puis difficile parfois. Voilà donc le tableau. Alors, le problème, c'est que on peut prendre la situation par discipline. Les littéraires sont très ouverts. Seulement, ils n'ont pas grand-chose à dire sur l'histoire du climat elle-même. Ils s'intéressent à la sensibilité au climat. Levez-vous, orage désiré, de Chateaubriand, les tempêtes, etc. Et il y a donc, sous la direction des professeurs Sermin et Berchtold à la Sorbonne, Madame Vazak à l'Université de Poitiers, il y a tout un groupe de gens qui s'intéressent à la sensibilité climatique dans la littérature et qui est très accueillant aux historiens du climat, et il faut les remercier. Mais enfin, c'est pas d'eux que peut venir l'histoire proprement dite, à moins alors qu'il y ait des conversions, ce qui est possible. Il y a notamment un Allemand du XVIIIe siècle qu'on remet en honneur à ce sujet. Le grand problème, c'est celui de la géographie. Parce que d'une part, les géographes sont les mieux placés. Quand vous êtes géographe, vous pouvez être légitimement climatologue. Et c'est pourquoi moi je recommanderais assez, en me trompant peut-être aux jeunes, de s'inscrire plutôt en géographie, parce que là il y a un milieu favorable. Ce qui est un peu compliqué, c'est que les géographes sont assez souvent climato-sceptiques. Bon, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas au réchauffement mondial. Mais enfin, peu importe. Il y a des professeurs qui font leur travail, et notamment je pense à Madame Tabot, qui a des élèves fort intéressants, notamment Metzger. Alors, le grand problème, c'est que ces élèves sont des littéraires excellents, mais n'ont pas la formation scientifique.
Et là, on rejoint peut-être le problème de l'histoire quantitative.
Ben, c'est ça. Alors, si vous voulez, moi, je me suis donné pas grand-chose à une petite culture scientifique, mais ça va pas très loin. Et inversement, les scientifiques sont déjà tout à fait armés, avec les coefficients de corrélation, mais ils n'ont pas de culture historique. Alors, quelqu'un comme Valérie Daud a su quand même, je crois, au point de vue des dates de vendange, avec ses 380 séries de dates de vendange, aller vraiment au-delà. Mais même elle sent bien qu'elle a un dialogue avec les historiens, c'est ça son mérite. Mais là, nous sommes devant un problème.
Alors, il y a aussi ces scientifiques qui sont demandeurs d'histoire, notamment quantitative.
Ils sont demandeurs, mais ils trouvent pas grand monde. Et puis moi, je suis quand même trop âgé. Il y a Emmanuel Garnier, je crois. Mais vous voyez, tout ça, les troupes ne sont pas très nombreuses. C'est un homme de grande qualité. Et je pense qu'on peut compter sur lui pour l'avenir, c'est un monsieur de 40 ans. Alors, le problème des historiens, c'est d'une part l'indifférence.
Mais j'allais dire, d'où vient alors cette indifférence des historiens, si elle existe?
Ce n'était pas le cas de Braudel, mais les 68ards ont un peu tué une partie de l'école des annales. Et donc,
la partie quantitativiste.
L'histoire matérielle, l'histoire quantitative n'est pas bien vue. Et ça n'empêche pas qu'il y a quelques personnes, mais enfin, Il faudrait aussi...
Donc c'est parce que, si j'essaie de résumer un peu vos propos, au fond, c'est parce que l'histoire du climat, c'est une histoire presque trop ardue. Et donc, les historiens, peut-être, seraient frileux.
Il faudrait qu'ils se donnent une formation scientifique. C'est pas facile, une formation... Si, c'est très facile, mais encore faut-il le faire. Donc, moi, je suis pas très optimiste, parce que j'ai repris le flambeau, Mais, bon, il y a Emmanuel Gardier, il y a donc quelques étudiants en géographie, mais vous comprenez bien que c'est une petite discipline, quand même. On imagine facilement ce que devrait être une formation d'historien du climat. Il faudrait, bon, la formation historique que j'ai développée dans mes ouvrages, plus une formation mathématique, statistique, scientifique. Mais ce genre de personnage ne se trouve pas, comme on dit, sous le pied d'un cheval.
Mais au fond, Emmanuel Roy-Ladurie, je vous sens comme un peu désabusé. Vous, quelque part, vous n'avez pas fait école.
Ben voilà, il y a quelqu'un qui a su faire ça, c'est Christian Pfister.
En Suisse.
Et je lui rends hommage. Mais une fois de plus, peut-être que l'Allemagne, enfin le monde germanique, est plus fort que nous. Il semble par exemple qu'en Allemagne, il n'y a pas le climato-scepticisme qu'il y a en France et peut-être aussi aux États-Unis. Enfin ça, c'est un autre problème. Donc moi, je compte beaucoup sur ces... Pfister a quand même fondé l'école de Berne. Et actuellement, il a un disciple important, quelqu'un de qualité. Je pense donc qu'il va se passer des choses en Allemagne, mais c'est un peu la même situation que dans l'économie. Je vois maintenant, l'Allemagne va faire un pipeline, plus de dizaines de milliers de tuyaux dans la Baltique pour amener du pétrole. Bon, le pétrole, c'est pas très bien, parce que c'est du CO2. Bon. On a l'impression que l'Allemagne a enfin dépassé le problème de la Seconde Guerre mondiale et est en train de prendre la tête. Et nous, on rame un peu.
Pourtant, c'est étonnant ce désintérêt dont vous parlez en France des historiens pour le climat, puisque l'histoire du climat est liée à des préoccupations actuelles. Or, on le sait bien, dans l'histoire, il y a des modes. Eh bien, on dirait que voilà, en histoire, donc ça ne prend pas.
Alors, mon livre sur l'histoire du climat, paru en 67, on peut dire, a été rattrapé par l'histoire, a été rattrapé par le réchauffement. Je ne l'avais pas fait exprès. Du reste, il y avait déjà du réchauffement à cette époque. Dans ce livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Le réchauffement récent ». Et ça date donc des années 1960. C'est une chose qui se préparait de loin. Mais non, je pense quand même que ce qui se passe en Allemagne et en Suisse est déjà important. Mais je vois le mal qu'Emmanuel Garnier a trouvé un poste universitaire.
Oui, il y a peut-être ça
aussi. Moi, il y a un grand nom pour moi, c'est Valérie Daud, mais qui était essentiellement une scientifique, ce qui est tout à fait à son honneur.
Mais vous évoquez les postes, peut-être que c'est un problème aussi alors de création
si
de
vous voulez, l'histoire du climat, c'est quelque chose qui est interdisciplinaire. C'est-à-dire, c'est un trou noir entre deux disciplines, entre la discipline historique et la discipline climatique. Même pendant longtemps, les scientifiques méprisaient un peu ça, mais je crois que maintenant, ils se rendent compte que ça peut apporter quelque chose. Si bien, j'ai peur que mon œuvre, enfin, je ne sais pas, où je sois oublié, ou reste solitaire, enfin, on verra bien la suite. Et même, enfin, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un comme Metzger, qui vient de faire une maîtrise très brillante sur l'histoire, ça, c'est une très bonne idée, sur l'histoire du climat et l'histoire de l'art. Mais il faudrait aussi quelqu'un qui fasse ce que j'ai fait, qui essaie d'aller jusqu'aux séries climatiques. Alors, Daniel Rousseau l'a fait, il a fait une série thermométrique. Je vois.
Mais vous avez eu des élèves historiens du climat, non? Est-ce que vous avez dirigé des thèses, je ne sais pas,
pas vraiment. Je suis avant tout un historien du monde rural, historien politique, etc.
Donc vous n'avez pas suivi...
J'ai eu quelques élèves qui, finalement, ont décroché. Il y a Emmanuel Garnier, je crois.
Il n'en a qu'un.
Oui. Enfin, et puis il a des élèves aussi. Mais enfin, il faudrait qu'il ait une carrière peut-être plus facile.
Dans votre livre que j'ai déjà cité, la 33 questions sur l'histoire du climat, qui était une révision de l'abrégé de l'histoire du climat, paru en 2007, vous dites la question, à propos de cet avenir, de l'histoire du climat en France, la question est fort délicate. Je l'aborde aujourd'hui davantage qu'autrefois, mais on doit rester très prudent. Mais j'allais dire, vous avez passé l'âge de la prudence.
Justement, j'ai passé l'âge puisque je fais de l'histoire climatique. J'en refais beaucoup à nouveau. J'en ai toujours fait, mais à un moment, j'étais resté silencieux. Et c'est Pfister qui s'est très bien passé, qui a pris la direction du mouvement. Alors, je voudrais signaler le rôle très important d'une collègue, de Mme Anouchka Bazak, qui fait périodiquement des colloques, qui elle-même est une littéraire, mais très intéressée par l'histoire du climat, et qui, je crois, a un rôle fédérateur. Elle a un rôle extraordinairement...
Vous voulez dire entre les différentes disciplines?
C'est elle. Elle convoque des colloques d'inspiration littéraire, mais où les historiens du climat sont invités. Mais enfin, selon une expression que les gens ne comprennent plus, on ne se bouscule pas aux portillons. Je ne sais pas si vous connaissez les portillons du métro.
Vous pouvez les rappeler peut-être.
Oui. Le métro avait autrefois des portillons. Vous savez, c'est ces portes rouges qu'on voit que dans certaines stations. J'avais une amie qui avait épousé un monsieur assez médiocre. Alors, Je lui avais dit quand même, j'aurais pu trouver mieux. Il m'avait dit, mais on ne se bousculait pas au portillon. Eh bien, actuellement, on ne se bouscule pas parce qu'on sait qu'il n'y a pas de carrière à faire. C'est un peu une carrière de retraité, en fait, moi, je crois, actuellement. En ce qui concerne les historiens, à condition de trouver le retraité qu'il faut. Mais je vous dis, à part Emmanuel Garnier, mais il paie un peu le prix aussi de ça, en termes de...
En termes d'avancement, en termes de carrière.
Il a un poste à Caen, enfin... Et puis, je vois même quelqu'un comme Valérie Do, après tout, elle n'est pas professeure, mais elle, c'est quelqu'un qui avance énormément. Mais enfin, pour un jeune homme qui aurait de l'ambition, c'est pas forcément la voie à suivre.
Bon, pour terminer, c'est un peu bateau, mais est-ce que vous auriez un appel à lancer aux jeunes historiens?
Appel à candidature?
Vous avez dit, j'appelle les géographes peut-être à se lancer.
Oui, évidemment, mais en même temps, on peut pas leur promettre une carrière très brillante. Je crois que l'idéal, ce serait, mais c'est l'animal introuvable, c'est quelqu'un qui aurait une formation historique et une formation scientifique et qui serait membre d'un laboratoire scientifique. C'est ce qui s'est un peu passé en Angleterre, peut-être, avec le vieux Manley, et puis aujourd'hui même avec des gens comme Phil Jones et autres. Enfin, ce sont des mondialistes. Mais il y a d'énormes travaux à faire sur des séries quantitatives, mais on attend les ouvriers de la 11e heure. Alors bon, qu'est-ce que vous voulez? On verra bien la suite. Pour moi, ça risque d'être post-mortem, mais enfin, on verra bien.
Merci beaucoup, Emmanuel Leroy-Ladurie, de nous avoir fait profiter de vos connaissances tout au long de cette série. Une série qui s'achève malheureusement, chers auditeurs. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Mais j'espère que cette série vous aura au moins donné l'envie de lire. Je vous renvoie vers les livres d'Emmanuel Leroy-Ladurie, parmi lesquels 33 questions sur l'histoire du climat du Moyen-Âge à nos jours, coécrit avec l'historienne Anouchka Vazak, et puis l'ouvrage collectif « Médecins, climat, épidémie à la fin du XVIIIe siècle » paru aux éditions de l'EHESS en 1972. Et enfin, « L'histoire humaine et comparée du climat » en 3 volumes chez Fayard. Au revoir et merci.